C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
Hello tout le monde, comment ça va ce soir ? Enfin, comment ça va aujourd'hui ? Comme vous l'avez sans doute entendu, j'ai pas lancé l'enregistrement au bon moment, donc oui, il va vous manquer le début du générique. Enfin, une fois n'est pas coutume, hein. C'est Galéjade, vous savez ce que c'est, vous me connaissez maintenant. Donc on va le faire un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire de travers, comme aux origines. Donc aujourd'hui va être une émission avec un invité qui sera étalé sur deux épisodes, donc deux émissions. C'est un invité de talent, comme toujours vous me direz, bien évidemment. Il est auteur de bande dessinée depuis plus de 20 ans, il est connu de toutes et tous, je pense. Donc je vais avoir le plaisir de vous diffuser la première partie de mon entretien avec Bastien Vivès. Alors je sais que certains m'ont fait savoir qu'ils n'avaient pas envie d'écouter cet entretien. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais bon bah c'est mon émission, c'est moi qui décide, donc je vais d'abord vous diffuser un premier son de Susano, et après je lancerai donc cette première partie d'entretien avec Bastien. Donc le premier son c'est Pas toi de Susano, comme je disais. Je le lance et on revient juste après.
Enfin, je le sais. Planté couteau dans le dos, je sais qu'il y en a plus d'un qui le ferait. Pire ennemi est dans le miroir, donc y'a plus rien qui m'effraie. Mon cœur a connu le pire. À quoi ça sert de se faire du mal? Y'a plus rien à faire, j'ai peur de te perdre et que ce soit lui qui te prenne à moi. Détruis un rêve qui valait la peine, qui valait qu'on saigne. Pourquoi? Mon cœur coule, mais tes paupières sont sèches. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Ma vie, mon sang, tous mes secrets. Oh baby, qu'est-ce que tu m'as fait, hein? Oh baby, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait. Tu m'as fait.
Et voilà, c'était donc Susano avec le titre « Pas toi ». On va enchaîner l'entretien avec Bastien, la première partie de l'entretien avec Bastien. Cet entretien sera entrecoupé de deux morceaux, enfin un morceau au milieu et un morceau à la fin. Le premier morceau, ça sera donc Queen et David Bowie avec le titre « Under Pressure ». Et le morceau de fin sera Balak et Bruno qui reprennent Offspring « The Kids Aren't Alright ». J'espère que je l'ai bien prononcé, si je l'ai mal prononcé, bah vous êtes habitués. Donc je vous lance l'entretien et on revient après.
Salut Bastien.
Salut Geoffrey.
Comment vas-tu?
Très bien.
Merci d'accorder un petit peu de temps à Galéjade. C'est le nom de l'émission que je te l'ai
dit. Bien sûr.
Je suis un peu embêté aujourd'hui parce que en fait t'es un auteur que je suis depuis longtemps. Et donc quand il a fallu que je trouve des questions à poser, j'étais là, je fais, qu'est-ce que je peux demander à Bastien? Parce que Je t'ai déjà rencontré à plusieurs reprises et on a déjà beaucoup échangé. Donc il y a beaucoup de choses que moi je sais, parce qu'on a beaucoup discuté tous les deux. Et je me suis dit, ah, il va falloir quand même que ça soit quelque chose que les gens puissent entendre, puissent comprendre,
bien sûr,
sans se poser des questions. Donc j'ai un peu gratté, et c'est rare que je gratte autant pour me poser des questions. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Je m'appelle Bastien Vives, j'ai aujourd'hui 41 ans. Je suis encore décrit comme le jeune espoir et la jeune. Mais bon, je m'estime quand même déjà assez vieux et je pense qu'il y a forcément une nouvelle génération qui devrait voir le jour. Non, je suis auteur de BD, ça fait va faire bientôt 20 ans que je fais ce métier. J'ai publié à peu près chez tous les éditeurs, publié pas mal de bouquins qui ont été traduits aussi un peu dans le monde, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et voilà.
Tu l'as dit, bientôt 20 ans de carrière.
Ouais.
Tu pensais être toujours dans le milieu au bout, après 20 ans, quand tu t'es lancé, ou c'était quelque chose que tu prenais au jour le jour ?
Non, quand j'ai découvert la bande dessinée et que j'ai commencé à en faire, même j'ai arrêté mes études pour faire de la bande dessinée, pour faire mon premier bouquin, et tout de suite, en fait, j'ai découvert dans le médium de la bande dessinée le médium parfait pour moi, qui allait correspondre à toutes mes attentes, parce que j'ai toujours adoré raconter des histoires, j'ai toujours aimé dessiner, et le dessin est mon mode d'expression. Donc en fait, la bande dessinée est celui qui, enfin, vraiment découle de ça, quoi. C'est vraiment, on aime raconter une histoire en dessin, voilà, y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et en plus, on a l'objet fini à la fin, on a notre histoire finie à la fin, on mène tout de A à Z, et c'était assez évident. Je pense qu'il y a un moment quand on finit pendant les études ou même avant, on commence à avoir à cet âge-là une vision assez, je pense, une bonne vision de nos capacités. Et il faut arriver à faire la synthèse de ça et à se dire, ok, où est-ce que je vais être le plus efficace, quoi. Enfin voilà, où est-ce que je vais pouvoir être le plus... quel est le terrain de jeu le plus adapté pour moi,
ouais, celui où
voilà,
tu prendras le plus de plaisir.
Exactement, ouais. Okay. Et je, même si on n'a pas forcément dans cette idée, je m'étais jamais imaginé en auteur de bande dessinée, parce que j'avais pas forcément fait de BD. J'avais beaucoup recopié, parce que j'imaginais vraiment être dessinateur. Et en fait, tout d'un coup, j'ai fait la somme. Et puis quand j'ai commencé vraiment à faire de la bande dessinée, ça m'est paru assez simple. Enfin, c'est simple. Enfin, ça m'a pas découragé.
Très logique, voilà. C'était très fluide.
Même s'il y avait plein d'erreurs au début, il y avait plein de choses, mais ça m'a jamais découragé et j'ai pu continuer à apprendre comme ça.
Parce que toi, à la base, tu faisais des études d'animation.
Alors, je suis tombé dans l'animation, mais parce que moi, à la base, j'ai toujours recherché les gens qui dessinaient. Et donc, j'avais commencé à faire des études de graphisme. Et puis après, de graphisme, je suis arrivé, j'étais déprimé parce que plus personne dessinait en graphisme. J'ai réussi à choper le dessin animé. Dessin animé, j'étais vraiment nul. Puis surtout, je me suis rendu compte que pour raconter une histoire, ça allait prendre trop de temps. C'était beaucoup trop chronophage. Enfin voilà, le dessin animé, c'était...
Tu peux pas bosser en solo, t'es obligé en plus.
Tu peux pas bosser en solo. Tu pourrais faire Bill Clinton et faire ton film avec une technique adaptée et tout ça. Voilà, tu pourrais y arriver, je pense que... Mais il faut vraiment avoir un don pour le mouvement, pour avoir... Et en fait, c'est un peu bizarre, mais le dessin animé, c'est pas vraiment du dessin, enfin, comment dire, l'image, vu que l'image n'est jamais arrêtée, c'est vraiment comprendre le mouvement et comprendre et d'arriver à faire ressentir le mouvement à travers tout un tas d'artifices, de choses qui, comment dire, tu peux être un extraordinaire animateur et être un très mauvais dessinateur, quoi. Ça ne va pas du tout, les deux ne vont pas, c'est comme un peintre et un dessinateur, quoi. C'est vraiment pas la même chose, voilà. Et donc je me considère pas non plus comme un très grand dessinateur, surtout à l'époque, mais je sais que j'ai vraiment une passion pour l'image quand même arrêtée, quoi. Vraiment même illustration, faire en une vignette quelque chose qui raconte une histoire, et ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc j'ai arrêté cette étude d'animation et je regardais autour de moi, j'étais sur les forums Katsuka, enfin j'essayais toujours avec des gens qui dessinaient autour, et puis il y avait des gens qui faisaient de la bande dessinée, et j'ai dit ah bah tiens, j'aimerais bien, j'ai proposé une histoire, j'ai inventé une histoire, j'ai commencé à faire une BD, mes premières planches elles étaient sur du format A3 et il y avait peut-être genre 25 cases sur la...
Ouais.
Donc c'était n'importe quoi, donc un éditeur a vu mon dessin et c'était Didier Borg chez Casterman, et il m'a dit, alors je trouve qu'il y a une énergie, il y a quelque chose et tout, ça me plaît. Il aimait beaucoup les dialogues des personnages, et il m'a dit, ah je sais pas, il y a un truc, ça fait, c'est jeune, on sent que c'est vivant et tout, par contre coupe tes pages en deux, prends un truc plus classique, un gaufrier plus classique et tout, et puis à ce moment-là, très vite après, je me suis dit, ok, là, il faut que je rende tout mon travail lisible, et puis je me suis concentré sur la lisibilité pendant les 10 premières années de ma carrière.
Parce que là, quand t'as rencontré Didier Borg, t'avais déjà sorti Pungi Larrakai.
Alors oui, j'avais déjà fait Pungi, mais c'était, okay. C'était juste des vignettes toutes seules.
C'était plus de l'illustration.
Ouais, c'était l'illustration, c'était presque du dessin de presse, enfin voilà, c'était presque, c'est juste de l'illustration, mais déjà, juste avec l'illustration, on peut raconter déjà énormément de choses, et ça me plaisait. Il y avait quand même dans l'illustration, il y avait des bulles, les personnages, donc il y avait déjà un premier pas vers la bande dessinée. Et puis même, je me rappelle, dans Pungi 2, donc il y avait aussi des vignettes qui se suivaient, il y avait un fil rouge pendant l'album, et donc je commençais petit à petit à rentrer dans le médium de la bande dessinée, qui est il y a la lisibilité, mais surtout comment on agence les vignettes et comment est-ce qu'on fait passer le temps dans l'histoire. Et ça, c'est tout le nerf de la guerre. C'est là où c'est là où tout se joue, quoi.
Ton premier album qui sort chez Casterman, c'était Hollywood Yann? Non,
c'était Elle.
Elle est sortie avant, d'accord.
Ouais, Elle est sortie, c'était mon tout premier. C'est celui-là qui avait vraiment les planches qui étaient en A3 et tout. Donc tout était en numérique. Et en plus, c'est bizarre parce que même à l'époque, je savais pas dessiner les voitures, les villes, les décors, je savais pas les dessiner, et vraiment toute la première séquence c'est deux nanas qui font du shopping dans Paris et qui prennent le métro et tout, et donc c'était, et comme si, et c'est marrant parce que j'ai, comme si quand tu commences une BD pour la première fois, il faut que tu prouves aux gens
que tu sais
dessiner, que t'es fort, et enfin voilà, t'as besoin de prouver, et c'est souvent ça une première une bande dessinée, tu dois prouver quelque chose, tu dois prouver que t'es légitime, et c'est pour ça que dans les bandes dessinées parfois elles sont trop engorgées de choses parce que
on veut tout mettre.
La deuxième, c'est un peu la plantade, on n'a plus rien à dire, on sait pas ce qu'il faut te dire, et la troisième là tout d'un coup on retrouve, on se dit, ah mais non, mais en fait je peux raconter des choses autour de moi, il faut que je raconte des choses à l'extérieur, on ouvre un peu son... Ça se suit un peu, et donc ouais, la première c'était Elle, c'était le trio amoureux.
Est-ce que tu te souviens de l'accueil qu'a eu cet album ou pas?
Ouais, je me souviens, c'était marrant, parce que je me souviens de j'ai vraiment commencé à faire les tout premiers festivals BD, c'était, il y avait un succès, alors... entre guillemets, on lançait la collection Caster. Autour de moi, il y avait Thomas Kaden, Vira Vong et Will Argunas, on était tous les quatre. Donc on lançait la collection, moi je découvrais un peu tout ça. Didier Borg, c'était la première collection qu'il lançait, notre éditeur, donc il était complètement galvanisé, il disait on va en vendre 30 000 chaque album et tout ça. Bon, mon album il s'est vendu à 1500 exemplaires. Aujourd'hui on a dû dépasser peut-être les 3000, peut-être quelque chose comme ça.
D'accord, j'aurais fait plus.
Non, ouais, au début, mais il y avait eu j'avais eu une espèce de tout petit succès d'estime parce que. Enfin, juste j'avais été remarqué. Et c'est le moment où, tu vois, parce qu'il y a des scénaristes qui viennent te voir, disent, les scénaristes de toute façon ils sont toujours à la recherche de chair fraîche, donc ils sont là, ils viennent te voir, ah est-ce que. Tiens, j'ai ce scénario qui a été refusé par. 1 million de personnes, mais toi, peut-être, je vais essayer de voir si je peux pas te mettre dessus et tout ça, parce que comme ça, après... Bref, c'est pour ça que j'ai jamais eu une grande estime des scénaristes. Et après, j'ai compris, en continuant à travailler, que, quand même, c'était, que le métier de scénariste en bande dessinée est quand même intéressant, quoi. Mais au début, j'avais pas vraiment beaucoup d'estime, j'étais juste là, et dit, bon, bah, ils veulent faire passer leurs histoires à n'importe quel dessinateur et pour cachetonner et prendre un peu d'argent et tout. Mais je me souviens, donc, le succès... Il y avait rien, j'avais pas eu de... Je me souviens pas si David avait été d'avis. Juste, il y avait eu, comment dire, un peu de presse sur la collection Caster. Je me souviens de vu que sur la couverture c'était deux nanas qui dansaient et une avait vraiment des très gros seins. Alors qu'en fait, quand on lisait l'album, c'était pas du tout. On voyait jamais. Enfin, comment dire, ça n'avait pas un rôle. Mais j'étais obligé de trimballer ce truc-là parce que moi, en fait, il y avait déjà. Tout dans cet album, entre guillemets, de mon dilemme qui était la limite entre l'élégance et la vulgarité, quoi. En fait, il y avait ce truc, j'ai toujours été un peu entre les deux, et moi je considère qu'il faut avoir les deux, quoi. Je pense que moi, ce qui m'intéresse le plus dans toutes les aujourd'hui et même dans l'art en général, c'est comment est-ce qu'on joue avec les deux tableaux, quoi. Ouais. Une œuvre qui est trop Par exemple, si on prend dans le cinéma, je fais une énorme caricature. Soit il y a Kubrick, soit il y a Russ Meyer de l'autre côté.
Que je ne connais pas.
Russ Meyer qui fait des films, ou par exemple, je vais pas dire Russ Meyer, mais où par exemple, il y a Kubrick et à qui on pourrait
Fabien
donner...
Antoniente.
Ou Fabien Antoniente, ouais, peut-être dans le vouloir, je ne le mettrais même pas là-dedans. Okay. Mais je sais pas, Claude Zidi, je sais pas, okay, voilà. Et en fait, il y a un... moi ce que j'aime, c'est les gens qui sont un peu... entre les deux quoi, c'est Paul Verhoeven, tu vois, par exemple, ouais, qui va aller chercher, qui a compris dans son œuvre qu'il fallait quand même jouer sur les deux tableaux, parce que sinon après c'est, j'aime pas, c'est trop formaliste, c'est trop froid, c'est trop machin, puis l'autre c'est parfois un peu trop concon et trop lourdingue, et puis juste d'être entre les deux, et moi ça m'a toujours intéressé. Bon, il s'avère que quand j'avais fait ce premier bouquin, elle, la couve, c'était les deux nanas qui dansaient. Et il y a le mec qui était derrière et qui les regardait, et il y a quelque chose de dramatique dans la couverture parce qu'on comprenait que ça allait être une histoire de choix un peu cornélien, ouais. On va te demander de choisir, il faut que tu ailles un peu dans l'art, il faut que tu ailles de ce côté-là ou de ce côté-là. Et en fait non, il y aura rien à choisir pendant tout l'album, parce que pour moi les deux ont autant de force l'une que l'autre, tout ça. Et je l'avais mis tout ça à travers ces deux nanas. Et c'est marrant parce que ben, cette couve avait, je me souviens, pas un peu choqué, mais il y avait des gens qui trouvaient ça répugnant d'avoir montré montrer un peu les gros seins, et d'autres trouvaient que c'était mais que c'était amusant, d'autres, et en fait c'est drôle et je m'en étais pas forcément rendu compte, mais parmi le petit milieu, je me souviens qu'on était à Nancy et je me souviens, je sais plus, je crois que c'était Boulet à l'époque qui avait trouvé que c'était vraiment honteux, et puis on avait discuté, et puis après, tout était ouais, un peu retombé sur ce truc.
Ce mais qui est bizarre, hein. C'est quand même... moi, tu le sais, je suis un passionné de BD, donc je rencontre quand même plusieurs auteurs. Et une des choses qui m'a été dite par je ne sais plus quel auteur, c'est quand il doit faire sa couverture d'album, son éditeur lui dit « N'hésite pas à dessiner des personnages féminins aussi sur la couverture,
ouais.
Parce que c'est un élément qui fait vendre. »
Bien sûr, c'est, ouais, bien sûr.
Donc c'est un peu surprenant ce que tu dis, disant que toi, on t'a limite dit c'était vulgaire, alors que d'autres, on leur dit « dessiner des femmes ».
Ouais, ouais. Non, mais après, c'est parce que je pense aussi les seins étaient trop gros, je pense, sur la couverture. Et en fait, c'est assez drôle de voir que... moi je sais que de toute façon il y a plein de gens qui réduisent mon travail à juste ils dessinent des gros nichons et voilà, et d'autres qui ne voient pas, ne veulent pas voir cette partie là et se concentrent que sur une partie qu'ils considèrent être plus noble. Et depuis mon affaire et toutes les choses là, il y a vraiment, tout le monde dit il y a plusieurs Bastien, il y en a un qui est très sensible, qui est super, qui est vraiment génial et tout, l'autre qui est vraiment un sale pervers et tout ça, et l'autre qui serait encore, et en fait ça c'est drôle, tu dis oui mais tu pourrais faire ça avec n'importe qui,
oui,
n'importe quelle personne qui a quelque chose à raconter, et c'est fou parce que tu pourrais dire, bon ben en fait on aime cette partie-là de cette personne, mais on n'aime pas cette partie-là, alors que au contraire, c'est quand tu dans n'importe quelle œuvre, impossible de dissocier. Il y a autant de vulgarité, je pense, dans je sais pas, dans Paulina qu'il y aurait dans Les Melons de la Colère, qu'il y a autant de sensibilité dans mes bouquins porno qu'il y en a aussi dans mes trucs. En fait, à chaque fois, je fais ça comme un tout, et les œuvres, on peut les lire à différents niveaux, sur différentes. Il y en a qui vont prendre ça de manière avec beaucoup de je sais pas, de philosophie. De toute façon, de n'importe quelle œuvre, on peut en créer une exégèse, on peut créer une synthèse, une critique absolument. Qui vole très très haut, ouais. Une autre qui vole très très basse, on peut être dans le j'aime pas, bref, c'est quand même un énorme gloubi boulga, enfin tout ça. Mais c'est là où en fait, je pense que j'avais été repéré sur celui-là en disant, grosso modo, tiens, c'est un dessinateur qui arrive à bien dessiner, enfin comment dire, qui arrive à dessiner les filles de manière attractive,
ouais.
Donc, dans la bande dessinée, on peut miser là-dessus parce qu'il y avait de cette règle dans les années 2000 ou même avant, qui était quand même, le dessinateur qui sait bien dessiner les filles va attirer un public masculin et va pouvoir vendre et voilà, va pouvoir vendre plus d'albums.
Chose qui a changé. Il y a beaucoup plus d'autrices maintenant, ouais. Et beaucoup plus de lectrices qu'avant.
Oui, oui, oui. Et ça grossit un peu, même si je pense que c'est pas non plus, il n'y a pas non plus tant de nanas qui lisent de BD que que ça, ça reste quand même, il reste quand même, il y a quand même des chocs générationnels, quoi. Je pense que c'est, je pense qu'il y a des passionnés de bande dessinée, il y a des gens qui lisent de manière un peu plus sporadique comme ça, des gens qui n'ont vraiment jamais lu de bande dessinée. Ouais. Et ça a été ma grande surprise. Je pensais quand même que la bande dessinée était rentrée dans un espace commun où on avait au moins lu un album d'Astérix dans sa vie, on avait au moins lu un Lucky Luke, on avait au moins ouvert un Fil Glacial, on savait qui était, parce qu'ils sont morts, Volinsky, Cabu, des gens comme ça, on connaissait un peu le dessin de presse. Je pensais que c'était un peu rentré, mais en fait, par exemple, toute la BD adulte, j'ai été surpris de constater que pour un tas de personnes, ça n'a jamais existé.
Ouais.
Ouais. Que la BD, en fait, on considère que la BD est restée une œuvre pour un public masculin, pour la jeunesse, jusque dans les années 2000, où elle se serait ouverte grâce au roman graphique, grâce à des choses, à des récits plus, je sais pas, grâce à Persepolis, grâce à Maus, grâce à des choses comme ça. Tout d'un coup, elle aurait gagné en adulte parce que la BD serait devenue plus responsable. Alors que j'avais dans l'idée, enfin, qu'elle était devenue plus responsable, plus intellectuel et tout ça. Alors que dans l'idée, j'ai dit non, attendez, la BD adulte, elle est née dans les années 60, elle est née à partir du moment, en fait, pour la faire rentrer, on a mis de la sexualité, on a mis de la violence, on a mis tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas montrer aux enfants. Et en fait, ça, cette chose-là, il faut croire qu'aujourd'hui, elle n'est pas si évidente. Et voilà, j'ai été surpris de constater ça.
Tu vois, quand ce que tu dis, moi, je pensais que c'était la blogosphère qui avait ouvert l'apparition des blogs BD et donc les premières sorties de Pénélope Bagieu, Boulet, qui avait ouvert la bande dessinée à un public plus large.
Ah oui, plus large, mais pas forcément pas adulte ni jeunesse. Oui. Mais alors, non, il y a un nouveau public qui s'est engouffré dans la blogosphère avec une BD entre guillemets. Numérique, tout le monde se posait la question sur est-ce qu'on peut lire la BD numérique comme le livre et tout ça, comment le numérique allait changer un peu tout ça. Il y a eu tout un nouveau public qui est arrivé, et c'est vrai que moi par exemple je l'ai vu parce que, donc pour en revenir là, sur elle, on dit bon ben il sait dessiner des jolies filles, il va pouvoir nous attirer un public masculin, mais au fur et à mesure, lorsque je sors ensuite, je passe un peu certains bouquins, mais je sors Le goût du chlore, puis je commence à raconter l'histoire d'amour, puis Paulina. Tout d'un coup, j'ai un public féminin qui arrive. Donc en fait, on dit, attends, tiens, il dessine des jolies filles, mais c'est plus des lectrices. Mais tout d'un coup, on a des lectrices. Je me souviens, tout d'un coup, les éditeurs se sont jetés sur moi parce que j'avais des filles dans mes files d'attente de dédicaces. Et là, c'était la grande surprise, quoi. Vraiment, ouais. C'était... j'avais Pénélope Bagieu qui chroniquait mes livres chez Mademoiselle. J'avais tout d'un coup des... Non, mais j'étais devenu... à ce moment-là, regardez. Et alors, je pense que cette bascule, elle s'est faite aussi parce que j'ai attiré aussi, il y a eu tout un nouvel, grâce à la blogosphère, grâce à toutes ces choses-là, des nouvelles lectrices qui sont arrivées, des nouvelles personnes qui venaient peut-être plus de la littérature, plus de l'illustration, et qui ont apprécié mes albums. Alors, c'était dans les années 2000.
Ouais.
Et... ma théorie, alors, c'est que je pense que à ce moment-là, c'est pas forcément sur la représentation des femmes que j'ai été mis en avant. C'était pas forcément là-dessus. C'était plus sur le fait. C'était plus sur la représentation des mecs. Parce qu'en gros, les modèles masculins qu'on nous montrait dans la bande dessinée, c'était soit le héros un peu viriliste, un peu, toi, le mec, ouais. Voilà, toi, je prends Tarzan, Varan, tout ça, tous ces trucs-là. Soit c'était ce truc-là, qui ne correspondait pas, je pense, pour les nanas. Soit c'était le mec, le loser total, ouais, okay. À la, genre, certains trucs américains, enfin, tu vois, genre, vraiment le loser total... le mec, même toute la BD un peu underground, le mec autodestruction, alcool, tout le bordel, tout, qui était un peu crado et tout, enfin qui était un peu crado, mais qui, voilà, un truc un peu plus brut, un peu punk, ouais. Voilà. Et moi je suis arrivé avec un garçon, enfin la plupart des hommes que je montrais qui étaient un peu qui me ressemblaient, mais qui étaient un peu des espèces de mec un peu timide, un peu gentil, qui étaient des gens un peu, pour le coup, un peu émerveillés par ces femmes-là, mais qui n'étaient pas du tout...
qui étaient ni l'un ni l'autre.
Voilà, ni l'un, qui était un peu entre les deux, et je pense que c'est ça qui a fait que, tout d'un coup, les nanas étaient mises un peu en lumière, j'étais le gars qui regardait ces nanas et qui les mettait sur un piédestal, mais les nanas n'étaient pas non plus des espèces de stéréotypes, enfin tu sais, c'est pas des espèces de stéréotypes ultra sexualisés, tout machin, parce qu'on parle d'albums comme Paulina, Le Goût du Chlore, Amitié Étroite, Dans Mes Yeux, enfin voilà, oui, des choses comme ça, voilà, et tous ces trucs, et à ce moment-là, il y a eu un espace où je pense qu'il y a... d'électrices qui se sont senties bien, ça les aura plu, elles ont trouvé une espèce de sensibilité, de choses comme ça. Et là, il y a un truc qui a touché, je pense que c'est peut-être un truc qui a touché par rapport à l'époque, par rapport à tout ça. Et là, je pense que c'est ce qui a expliqué qu'il y a une espèce de succès. En tout cas, un succès, j'ai jamais vendu énormément, mais un succès auprès des éditeurs,
ouais, voilà.
Auprès de ça.
Radio Alpa, tu l'écoutes pas, écoute-la.
Slashed and torn. Pressure.
C'est à cette période-là que tu as le succès d'estime, tu es reconnu par tes pairs. Voilà. Et que tu obtiens ce titre de jeune prodige de la bande dessinée.
Voilà, exactement, voilà, ce truc-là.
Ouais. Ouais, non, mais c'est. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu as utilisé ce terme-là, mais c'est... en fait, c'est dans ces années-là où est-ce que tu as été identifié comme ça. D'un coup, tu es devenu le gars qui était capable de faire de la bande dessinée qui parlait pas qu'aux mecs.
Ouais.
Et surtout qui mettait aussi en avant les mecs normaux. C'était. Bah, comme tu l'as dit, c'était fini le moment où le héros. C'était quelque chose qui était bah, quasiment
inattendu. Soit le héros, soit le anti-héros, quoi.
Ouais, voilà,
c'était on arrivait à quelque chose de normal, un mec, entre guillemets, normal.
Tu disais, ouais, rarement tu croisais un mec qui disait, bon, bah moi, le jour, je suis pilote d'avion, et le soir, je comprends le crime. Ou sinon, totalement l'inverse, je suis détective privé, j'ai mes failles, j'ai mes faiblesses,
exactement,
et je défonce la gueule à tout le monde, quoi. Donc là, tu fais, ah
exactement. Donc ouais, non, c'était assez... Il y a eu ce passage-là pour les années, mais c'était aussi des années qui... Où j'étais dans ma cinéphilie à fond, je bouffais du Claude Sauté, j'étais ultra aussi malheureux, enfin j'étais un peu malheureux, ouais, c'était vraiment des années où j'étais malheureux en amour, donc je pensais qu'à ça tout le temps, je pensais tout le temps à l'idée de rencontrer tout d'un coup cette personne qui allait changer ma vie, enfin voilà, donc il y avait aussi, je m'étais un peu... Je pense que voilà, ça s'est conjugué là-dessus, mais... très vite, parce que quand même, mon premier bouquin porno, je sors en même temps que le même moment que Paulina. Les Mondes de la Colère sort un mois après Paulina.
D'accord. Ah, ouais. je le voyais arriver plus tard.
Non, non, ouais, ça sort un mois après. C'était 2010, 2010, je crois.
D'accord.
Ou 2011. Et en gros, ce qui est amusant, c'est que j'ai ma production, mais à côté de ça, j'ai toujours... par exemple, j'ai mes notes de blog où je raconte des trucs absolument absurdes, d'humour un peu trash, tout ça. Je fais de mes bouquins porno et j'avance aussi un peu avec tout en assumant ça. Je propose aussi autre chose, quoi. Je fais pas que ces albums-là. Et donc, ben, ce public que j'ai ramené avec ces grandes histoires d'amour, et ben aussi découvre aussi une autre partie. Et ça, je m'en suis jamais caché parce que pour moi, je pense que ça faisait partie de le truc de l'ADN de la bande dessinée, c'est que c'est le truc de l'auteur, quoi. C'est que tu peux tout d'un coup un jour faire de la poésie, un jour faire ça, un jour faire un film d'horreur, un jour passer à autre chose, à faire une romance. C'est pas James Cameron, il a fait Alien 2, puis il a fait Titanic. Enfin, genre, il y a aucun problème, tu vois. Genre, on passe de l'un à l'autre assez facilement. Et surtout, oui, moi aussi, il y a toute une part de... J'ai autant aimé Claude Sauté que Paul Verhoeven, je les mets sur le même pied, voilà, le même niveau. On dira, bah oui, bah, dans Claude Sauté, il y a aussi la vulgarité dans cette espèce d'absence de mise en scène. Enfin, pas d'absence de mise en scène, mais dans cette image très, très neutre, pas forcément travaillée, avec des cadrages un peu bruts et tout. Et ben en fait, les gens trouvent que c'est vulgaire, on dirait... La plupart du temps, on dit, bah, Claude Sauté, on dirait un feuilleton, machin. Donc c'est très vulgaire. Et c'est ça aussi que Verhoeven a utilisé l'esthétique sitcom, qui est considérée comme très vulgaire dans tous ses films et tout. Et en fait, c'est ça, j'avais cet équilibre entre... Et je savais que je faisais mes bouquins sérieux, entre guillemets, mes bouquins d'histoire d'amour, machin, chez Casterman. Je racontais mes délires de péplum chez Dargo. Les histoires drôles chez Delcourt. Les BDQ. Et à chaque fois, j'avançais comme ça, tranquillement.
C'est, en plus, voilà, tout était cadré dans des maisons d'édition différentes, avec des lignes directrices différentes.
Voilà. Et puis, après, il y a eu Last Man.
Ouais.
Qui a été l'énorme gloobie-boulga de tout ça, en une seule œuvre, qui a été à la fois des trucs un peu hauteur, à la fois de la grosse baston, à la fois un peu de cul. Ça a été vraiment l'énorme gloobie-boulga du truc, qui a marché.
Et ouais,
au début difficilement, mais à la fin qui a marché, qui a donné une série télé, qui a donné un truc. Et donc, je pense qu'il y a eu inconsciemment ce truc de... en fait c'est bon, tout le monde a compris, quoi. Enfin, tout le monde a compris qu'on était un tout, qu'on n'était plus obligé d'avoir des petites chapelles à droite à gauche. Regardez, je me cache pour faire ce truc de cul, je me cache pour faire ce machin. Et tu dis, regardez, il y a tout, et on peut tout mettre. Et en fait la BD, c'est cet art un peu bâtard où on peut mettre toutes ces choses-là et tout. Et ça me conforte encore plus dans l'idée que le public, il n'y a pas besoin de lui dire... Ça c'est de l'aventure, ça c'est de l'horreur, ça c'est de la romance,
ça va te choquer,
ça dénonce telle chose, ça dénonce telle chose. Non, le public il comprend par lui-même, quoi, vraiment. Et il a une compréhension de la BD sans aucun problème, et je m'adresse à des gens qui sont des lecteurs et des lectrices qui sont complètement capables de comprendre toutes les œuvres.
De prendre le premier, le deuxième,
exactement.
Exactement. Mais justement, Last Man, c'est donc l'un de tes projets les plus ambitieux.
Ouais.
Si ce n'est le projet le plus ambitieux.
Ouais.
Tu l'as dit, cross-média, vous avez fait série télé, jeux vidéo.
Ouais.
T'étais avec Mickaël Sandaville et Balak. Comment il est né ce projet ?
Bah parce que je retrouve Balak qui lui était resté dans dans l'animation, alors qu'on était sur Katsuka tous les deux. C'était au moment où moi j'avais fini Paulina et je lisais de Bakuman, alors que je lis jamais de manga,
c'est l'histoire qui raconte
des mangaka qui fait ça, voilà.
Okay.
Et en fait j'ai ce truc là, et en fait je crois que ce qui me plaît dans Bakuman, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus vite, raconter plus de choses et retrouver la BD avec une espèce de fougue, la BD comme une industrie. Au Japon c'est la folie totale, et c'est des millions de lecteurs et tout, et je me dis putain, mais là aujourd'hui j'ai une espèce de vision où en fait il n'y a pas d'œuvre de BD jeunesse. Les œuvres de BD jeunesse, elles s'adressent que à un public enfantin, c'est très illustration et tout ça. Il n'y a pas de BD jeunesse avec je sais pas, des trucs un peu dingues. Je pense que à ce moment-là, je collectionne aussi beaucoup les jouets, donc je suis à fond dans les années 80-90 où c'était quand même de la violence, de l'horreur pour les gamins au petit déjeuner.
L'horreur, oui, s'il y avait quelque chose.
Les jouets, c'était des personnages avec des yeux arrachés, avec des trucs gore.
Je pense à quelque survivant aussi, il y a des têtes qui explosent, tout ça.
Oui, puis c'était que des trucs hyper anxiogènes, je sais pas, c'était des monstres partout, c'était vraiment des trucs un peu hardcore. Par exemple, les choses que Sfar dans Avec Petit Vampire avait réussi à faire, tu vois, avec un style un peu illustration et tout, mais je veux dire, vraiment, nous on bouffait des trucs. Et on lui dit, merde, les années 80. Je suis en train de ce moment-là de comprendre que je pars un peu en dépression, c'était les plus belles années de ma vie, ma jeunesse c'était les plus belles années de ma vie, je le retrouverai jamais, blablabla. Et donc, je retrouve Balak, et lui qui est aussi un peu déprimé par ce qu'il est en train de faire, je sais plus quel job il avait pris, il faisait du board sur Total Spies ou un truc comme ça, je sais plus.
D'accord.
Et aussi, il était aussi un peu déprimé, et on se dit, mais bien, on fait une BD de cul ensemble, où on s'en fout, on éclate tout, on se fait un... pour le délire. Et de cette BD de cul, tout d'un coup, je me dis, on avait commencé à faire ça, parce qu'on en avait déjà fait des BD, des trucs quand on était au Gobelin, on dessinait du cul tous les deux et tout ça. Et puis en fait, au moment où on s'est fait, en fait, le cul c'est chiant, parce qu'on a envie de commencer à raconter des histoires, et on a commencé à créer des histoires, à écrire une histoire et tout. Puis après, Mickaël, il s'est greffé, et puis moi, je lisais Bakuman, je dis, non, mais attends, les gars, on pourrait faire un manga, on fait 20 planches, machin, et il y en a un qui fait la mise en scène, et nous, on bombarde le dessin. Et puis on commence à faire un premier essai, et puis on décide, on vend ça à Casterman, et Didier Borg fait, ok, même si ils ont jamais fait de manga, ils savent pas du tout faire. Et là, on décide de faire... Et là, on bombarde. On fait vraiment comme les Japonais, 20 planches par semaine, avec le truc et tout. On va à fond. Et le premier tome sort au moment où on est sur le troisième.
Ah ouais.
Parce qu'on avait pris un an d'avance.
D'accord.
Et on est sur le troisième. Et le premier tome, c'est une catastrophe. Genre, ça ne se vend pas du tout. Vraiment pas. C'est vraiment... j'ai jamais eu des chiffres comme ça.
Ah ouais.
Et nous, on est là, on a des retours de libraires en disant « Bon, bah les gars, je sais pas ce que vous faites, mais ça se vend pas et tout. » Et nous, on est sur le troisième, on fait « Ah bon ?» Et on parle à notre éditeur, il dit « Non, mais vous inquiétez pas, je gère et tout ça. » Et il nous a un peu caché le truc. Il y avait Casterman qui disait « Non, mais attendez, le manga, ça marche pas du tout. Il faudrait faire en franco-belge, on remet les trucs en couleur, il faut arrêter le truc, ça s'arrête. » Et en fait, on fait ça, on est pré-publié chez Daily Toon. C'était le Didier Borg qui avait des Daily Toon, et donc nous, on essayait de créer ça. Et en pré-publié chez Daily Toon gratuitement, donc tout le monde pouvait lire Last Man. Et on avait des chiffres de lecture énormes, et on avait zéro vente. Donc ils étaient genre « Bah oui, les gars, vous donnez tout le bouquin sur Daily Toon, personne n'en veut et tout. » Et en fait, c'est ça, premier tome, ça marche pas, deuxième tome, ça marche pas, troisième tome, ça marche pas. Et nous, on était déjà en train de sur le quatrième, cinquième. Au moment où il y a le quatrième tome qui sort, il y a l'annonce qu'il va y avoir une série animée. Ouais. Et en fait, le quatrième tome, là, tout d'un coup, ça a pris. Je sais pas si c'est juste l'annonce de la série animée, parce qu'elle est sortie pendant le tome 8, la première série animée, mais sinon, tout d'un coup, ça a pris. Je pense que peut-être qu'il y a eu aussi le moment du le manga en France commençait à prendre un petit peu plus, tu vois, peut-être qu'il y avait le côté où parce que le manga, il n'a pas tout d'un coup explosé au pass culture. Les gamins, ils se tournaient de plus en plus vers le manga. Après, je pense aussi, peut-être que c'est en termes d'histoire, c'est que le premier, le deuxième, c'est relativement plan-plan. Ça se passe, il y a un tournoi et ça se passe dans l'arène. Et puis après, au troisième, ça, on ouvre. Et le quatrième, c'est un peu plus déconnant. Et je me souviens qu'on avait fait la grande affiche, là, Angoulême et tout, avec Marianne et Tommy, poitrine contre poitrine.
Ouais, face-face.
D'un coup, il y a aussi un truc qui s'est passé là, le délire des stickers. Peut-être qu'il y a eu aussi le côté un peu comeback des années 80 à ce moment-là. Il y a eu des choses qui ont dû se suicider. Je ne sais pas pourquoi au quatrième tome ça a pris plus que. Voilà, mais il y a eu le temps, il y a eu un bouche à oreille. Et à partir du quatrième tome, après ça a marché.
Si je peux te donner mon point de vue de lecteur, le tome 1, il démarre un petit peu de manière absurde, j'ai envie de dire.
Il est un peu absurde, on disait c'est une grosse blague.
Ça démarre comme un shonen Dragon Ball, c'est un tournoi. Ouais. Et il faut attendre la fin du tome 2 pour commencer à voir en fait que ça va être plus que ça, ou est-ce que ça va devenir une aventure, avec vraiment, à partir du 3, déjà on voit qu'il commence à voyager, et puis à partir du 4, là on est arrivé...
Ouais, à Paxton. Et au moment où on est arrivé à Paxton, là ça y est...
Le fil est là.
Les gens ont envie là. Ouais, ça y est. Ouais. Ça y est, il y a un truc qui se tenait. Et moi, c'était l'idée d'avoir quand même tout ça à hauteur d'enfant, à hauteur d'Adriane, quoi.
Ouais.
Tout à hauteur d'Adriane. Et puis après, jusqu'au tome 6. Et après, je pense qu'à partir du moment où on a basculé au tome... quand on arrive au tome 7, où Adriane a grandi et qu'il n'y a plus d'enfants...
Ça devient plus adulte.
Là, ça devient un peu plus adulte. Il devient plus adulte. Donc, c'était vraiment l'idée de faire... On faisait un condensé, comme ça. Et je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là où moi, j'étais quand même... j'étais un peu déprimé, parce que c'était vraiment une période où j'étais quand même un peu déprimé. Même si j'étais trop content, je sais qu'avec Balak et Mickaël, c'était vraiment génial, j'adorais, on allait dédicacer, on était au festival d'Annecy, tout, c'était vraiment super. C'est que des bons souvenirs à faire et tout, c'était vraiment génial.
Épuisant par contre.
Mais ouais, c'était épuisant, mais c'était pour la bonne cause et tout. Mais par contre, je pense qu'à partir du moment où Adrien est devenu adulte, j'étais un peu moins dans le concentré dessus. On était plus dans le.
C'était la fin de l'innocence. L'innocence était terminée, on était rentré dans quelque chose.
C'était un truc un peu plus dur. Et on était plus aussi. Il y avait la série animée, il y avait le jeu vidéo, on a travaillé comme des chiens. Vraiment, c'était la folie. Et on allait au Japon. Mais tout d'un coup, je pense que là, ça a commencé vraiment un peu à nous échapper. Enfin, ça nous a pas échappé, parce que ça n'a pas pris des dimensions incroyables. Mais.
Il y avait tellement d'acteurs qui étaient rentrés dans la danse que.
Oui, et puis. Mais là, j'ai senti que moi, il manquait ce truc de. Comment dire il manquait. C'est le point de vue. Je me suis posé la question, je me suis dit. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire grandir, Adrien. On aurait dû rester un peu. Après, il fallait faire avancer les choses, hein, et tout ça, mais. Je trouvais que j'étais devenu un peu moins pertinent, parce que quand on écrivait les histoires et tout ça, et on était un peu vite tombé dans un peu plus c'est pas évident, on était vraiment retombé dans la pop culture, quoi. Et en fait, la pop culture, au bout d'un moment, on est là, on n'y comprend plus rien, il y a tellement de références, qu'à un moment, ça devient une bouillie, et je sais plus comment est-ce qu'il fallait en finir. Et c'est pour ça que aussi la fin de Last Man a cette tournure-là. Je pense qu'on va jusqu'à vraiment le gros monstre, le Sentai, le machin, la bouillie de la pop culture et tout. Et à la fin, on tue tout et on revient à genre la vie normale, quoi.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'il y avait eu cette montée, il y a eu cette montée. Et ça, j'en suis toujours redevable à Balak et à Mickaël. Je leur ai dit... putain, les gars, est-ce qu'on pourrait faire cette fin-là et tout, machin. Et ils m'ont dit, parce qu'elle n'était pas évidente, et même encore, je pense que cette fin, elle paraît un peu bizarre, mais je pense que j'avais besoin de régler aussi personnellement un truc par rapport à ces années-là. J'ai toujours rêvé de retourner à l'âge de 8 ans et d'être un gamin et de jouer avec mes jouets et tout, machin. C'était les moments les plus heureux de ma vie. Et j'avais besoin de me dire que c'était aussi de la bouillie de cerveau de ces années-là, était aussi un peu de la bouillie de cerveau, et que ah non, c'est bon, on a grandi, on passe à autre chose, quoi. Et je pense que ils m'avaient, ils m'ont laissé faire cette, enfin là, je pense que c'est aussi d'accord avec le truc et tout, mais je resterais, c'est pas évident, c'était pas évident aussi pour eux de dire, les gars, on a fait 2000 pages, est-ce qu'on fait un truc aussi radical?
Et là, mais au moins c'était une fin nette, quoi.
Ouais, voilà, on avait besoin de, mais la semaine, ouais, ça reste un, c'était vraiment un. Une vraie épopée, je pense que je le referai plus jamais, un truc comme ça. Mais parce que je pense que l'alchimie qu'il y avait entre nous trois, du début à la fin, c'était vraiment génial. Je pense pas que je puisse la retrouver plus tard.
Ouais. Combien de temps ça a duré la semaine ?
Bah, ça commence en 2000. On commence à dessiner en 2012 et ça finit en 2000, pratiquement 19. Je crois que c'est 7 ans, 8 ans.
Et c'est là que graphiquement, t'as une très grosse évolution aussi dans ton dessin.
Ah bah oui, parce que Mickaël sent la ville. Ouais.
Ah ouais ?
Bah oui, c'est. Bah, Mickaël, on était ensemble au Gobelin. Et c'était marrant parce que quand on est rentré au Gobelin, moi je dessinais pas comme je dessine aujourd'hui. Mickaël dessinait pas comme il dessine aujourd'hui. Et on a mergé. Je saurais pas dire. Là où il y a du Mickaël et là où il y a du. Je me souviens qu'il ne savait pas dessiner les nanas, par exemple.
Ouais.
Et en fait, c'est lui qui a dessiné tout Tommy dans le tome 4. Et elle est absolument incroyable. Et j'étais genre, putain, mais il les dessine mieux que moi, quoi, tu vois. Mmh. Après, bon, moi, je ne sais toujours pas dessiner les voitures et lui, il sait le faire. Mais parce que je pense que Mickaël sur la ville, c'est un des plus grands dessinateurs actuels de bande dessinée. Dans sa capacité de pouvoir. Réaliser n'importe quel. De pouvoir tout dessiner, quoi. Vraiment. Genre, le meilleur à l'école, c'est Mickaël sur la ville.
Ah ouais ?
C'est un peu ça. Okay. Ouais. Après, il y a des dessinateurs qui ont des sensibilités, les machins, ça. Mais le meilleur à l'école, c'est Mickaël. Il est capable de tout faire, tout, mais sans aucun problème. Et je sais qu'en travaillant avec lui, mon dessin aussi a évolué. Et je pense que le dessin aussi de Mickaël a évolué. On a toujours eu cette bonne influence, tous les deux. C'était vraiment mon grand, grand binôme. Ouais.
Et c'est là que la sensation que j'ai, c'est là que ton dessin est devenu aussi plus, je vais pas dire plus fluide, mais plus
réaliste. Un poil plus réaliste, plus de mouvement, plus de.
Enfin,
il était plat avant mon dessin, et là tout d'un coup il a pris du volume.
Ouais, alors que tu dessines moins de détails.
Oui, oui.
Ce qui est paradoxal, c'est que t'as des traits ouverts. Tu dessines pas l'entièreté des choses. Si le regard n'est pas utile, tu vas pas le dessiner. Et je trouve que c'est là que tout devient beaucoup plus percutant, en fait, pour le lecteur.
Ouais, je pense que. Alors, il a peut-être perdu un peu aussi en accident, comment on pourrait dire, genre, en charme, peut-être. Mais là, mon dessin, en travaillant avec Mickaël, est devenu beaucoup plus solide parce que j'ai pu combler tout un tas de lacunes qui étaient de dessiner des véhicules, dessiner des décors, de dessiner des personnages dans l'espace, ce que Mickaël réalisait très bien. Et à ce moment-là, j'avais. Quand tu te sens en pleine possession de tes. Enfin, quand tu penses. Comment dire, quand tu as la sensation que tu peux tout dessiner. Je ne vais pas dire bien ou mal, mais quand tu as cette sensation-là, et ben en fait, bah pour raconter des histoires, c'est super. Parce que tu n'es plus jamais arrêté par quelque chose. Tu vas dire genre, ah oh non, mais ça va être chiant à faire. Ça va être chiant à faire. Parce que même si c'est chiant à faire, tu vas y arriver parce que ton bagage en dessin est assez solide pour faire ça. Et c'est pour ça que quand on rentre dans la bande dessinée, il faut toujours prendre une technique, un outil avec lequel tu seras capable de dessiner le plus de choses possible, même si c'est pas forcément ton dessin préféré. Mais tu pourras dessiner le plus de choses possible pour raconter exactement ce que tu as envie de raconter.
Ouais.
Ouais. Là où moi, je sais que quand... par exemple, j'avais utilisé... Bah, j'utilise encore le trait noir même que j'utilise encore sur Corto, sur les trucs, celui que j'avais trouvé mis en place sur Paulina, juste un trait noir léger un peu avec des masses de gris et de la lumière, parce que dans ce style là je peux tout raconter et c'est super, mais c'est pas du tout mon style de dessin préféré. celui que je préfère parce que j'ai aucun dessin comme ça accroché au mur, quoi, parce que les quelques dessins que j'ai, je préfère la couleur, je préfère le réalisme. Moi, j'aurais rêvé de dessiner comme Corben, tu vois.
Ok.
Mais avec un dessin comme Corben, j'irais beaucoup. Alors déjà, d'une, je sais pas dessiner comme Corben. De deux, j'irais beaucoup moins vite. De trois, je saurais pas faire certaines choses. Je sais pas. Puis surtout, je n'ai pas du tout je vois les dessins de Corben. Je sais pas comment il fait. C'est un génie. Bon bah, je m'arrête là. C'est pas grave. Et je trouve un style dans lequel je me sens bien, mais dans lequel je puisse arriver à tout raconter. Par exemple, dans Paulina, j'avais juste des aplats. Il manquait la lumière. Et la lumière, je l'ai rajoutée, elle est arrivée dans Une Sœur. Dans Une Sœur, okay. J'ai commencé à travailler avec juste un gris, un blanc, un autre gris foncé, le chemisier aussi pareil, et puis après, à partir de là, j'avais ça, j'avais mes nuances de... Dans le corto, bah, en fait, avec ça, j'ai pu dessiner par exemple le dernier corto avec des hydravions, des villes entières, des foules, enfin, tout un truc que j'aurais été incapable de dessiner avant, si j'avais gardé, je sais pas, ne serait-ce que... J'ai voulu faire ça en couleur, à la Corben, machin. C'est impossible, c'est trop difficile.
Ah, je comprends. Ouais.
N'est pas trouvé, hein. C'est toujours une espèce d'équilibre. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que ça veut aussi dire que t'es quelqu'un qui adore le dessin, mais qui est aussi conscient que ce que t'as mis en place, que tu fais comme style de dessin, c'est pas ce que toi t'aurais aimé vraiment faire.
Non, mais par contre je me rattrape en faisant j'ai passé tout mon été, je fais mes illustrations, en ce moment, pendant l'été, j'ai dessiné un comics,
oui.
Le Tortue Ninja, je me suis éclaté comme c'est pas permis, pour la première fois j'ai fait ça en couleur directe, j'ai fait ça dans un carnet, j'avais pas de repenti. Et j'étais hyper à l'aise, et je me dis, putain, ça y est, en fait, je pourrais faire le rêve qui est d'avoir juste des planches, je dessine sur mes planches, parce que je fais tout en numérique, sinon avant, mais donc je fais mes petites planches, je mets ma couleur et tout ça. Par contre, ça marche avec Tortue Ninja, parce que les Tortue Ninja, c'est dans un style aussi un peu punk, voilà, un dessin qui est à la base, le dessin de Kevin Eastman et Peter Laird, il est quand même un peu...
Ouais, il est trashos,
ouais, voilà. Et là, ça marche, il y a une continuité. Mais par contre, ce dessin-là, je peux pas faire, avec ce style-là, je peux pas faire un corto maltese. C'est impossible. Oui. Et donc, ça, il faut trouver les bons sujets, adapter son dessin par rapport à ça.
Eh, papier surec.
Future was so bright. Whoa. The whole neighborhood was so alive. Whoa. And every kid on the whole damn street, whoa, was gonna make it big and not be beef. Now the neighborhood's cracked and torn. Whoa. Your kids are grown up but their lives are worn. Whoa. How can one little street swallow so many lives? Chance is grown, nothing's free. Longing for what used to be, still it's hard to see. Fragile lives, shattered dreams. Jimmy had a chance, what she really did, whoa, is that she dropped out and had a couple of kids. Whoa. Maxi lives at home cause he got no job. He just play guitar and smokes a lot of pot. Jay committed suicide. Whoa. Brandon OD'd and died. Whoa. What the hell is going on? The cruelest dream reality. She's from nothing's free. Longing for what used to be, still it's hard to see. Fragile lives, shattered dreams.
Et voilà, vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Vous venez d'entendre Balak et Bruno avec le titre The Kids Aren't Alright de Offspring, un cover. Pendant l'interview, donc, comme je le disais, vous avez entendu Queen avec David Bowie, le titre Under Pressure. On se retrouve bientôt, très vite, dans 15 jours, pour la prochaine émission, la suite de cet entretien. J'espère que vous avez apprécié le moment. En attendant, je vais vous laisser pour le direct avec Delphine et Vertige pour l'Ardif avec Oblique. Si vous écoutez le podcast, on va vous laisser avec un autre podcast de Galéjade, bien évidemment, ou autre chose, faites ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à très vite.
C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
Viens pas, vas-y, viens pas, c'est là.